Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Ce sera une excellente soirée et surtout un bon début de soirée, puisque ce soir, j'ai un invité qui est connu de pas mal toutes les générations qui nous écoutent présentement. Son nom est Patrick Normand. Monsieur Normand, c'est un plaisir de vous parler ce soir sur les ondes de Boulevard 102.1.
Ça me fait un grand plaisir, moi aussi.
Je me demandais si vous étiez encore au Rwanda, parce que je sais que dans les prochaines heures, c'est-à-dire demain, sur le canal Historia, sera présenté un documentaire, le documentaire « Patrick Normand au Rwanda, le devoir de mémoire ». Qu'est-ce qu'on fait au Rwanda à 70 ans, M. Normand?
Veux-tu bien me le dire? Eh, si balak. Le Rwanda, là, écoute, moi, je poursuivais ma carrière tout bonnement. J'étais, ça va bien, toutes les choses vont bien. Mais durant, quand on a sorti la chanson « Quand on est en amour »,
ouais,
elle a joué dans les radios aussi en France, elle a joué un peu partout, elle a joué aussi au Rwanda. Et les gens ont accueilli, ont embrassé cette chanson. Ils ont adoré, ils endormaient leurs enfants avec le refrain. Et c'est devenu comme un succès. Les gens chantaient dans les autobus. C'est tous des témoignages que j'ai eus depuis une vingtaine d'années, ça. Au moins, peut-être même plus que ça. Et ben, ça venait à mes oreilles de temps en temps. Tu sais, Michel Mambara qui me dit ça. Après ça, je reçois un courriel d'une femme qui était là-bas à Kigali. Elle entend ma chanson jouer dans une boutique. Il y a plein de choses, puis qui à chaque fois que les gens demandent comment se fait, j'entends Patrick Normand, mais c'est une grande vedette, vous le connaissez, blablabla. Ils réalisent, alors, ils sont empressés de me donner tous ces beaux témoignages-là. Mais il y a une dame en particulier qui, elle, vraiment m'a secoué, c'est comme un choc. C'est quand elle est venue me raconter, je l'ai rencontrée au hasard dans un resto en plein après-midi, en deux tournages. Il n'y avait personne, sauf elle, qui est venue me voir, puis qu'elle m'a dit qu'elle était absolument bouleversée de me rencontrer parce que quand sa famille se faisait tuer par les Hutus, elle chantait cachée « Quand on est en amour » dans sa tête. Toute sa famille est partie, mais elle chantait ça. Là, de vous voir aujourd'hui, si vous saviez ce que ça me fait, quand je vais être sorti dehors, je vais pousser un grand cri dans la rue. Là. Elle dit « C'est... Hey, j'ai comme... » J'étais sans mots.
Donc, pendant le génocide au Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis, votre chanson pouvait jouer parfois à la radio, puis cette chanson-là était fredonnée pour endormir les enfants. Quelle histoire!
Voilà. Et durant le génocide, durant les pires moments de leur vie, ces gens-là se sont servis de « Quand on est en amour » comme réconfort. Alors, à la fin du génocide, le nouveau président a dit « On tombe pas dans la colère et dans la vengeance. Nous devons aller dans la résilience, dans le pardon, et on rebâtit le pays. » Parce que avant, les Tutsis et les Hutus étaient des voisins. Ils se mariaient même entre eux. C'est les colonisateurs qui ont mis la bisbille dans tout ça. Mais aujourd'hui, ils ont repris en main leur pays, et en à peine 30 ans, une génération, ils ont transformé le pays le plus dangereux au monde au pays le plus sûr au monde, le pays le moins corrompu, le pays le plus propre. Il n'y a rien, c'est manicuré partout. Les gens te sourient, c'est le pays de la bienveillance. C'est incroyable ce que ces gens-là ont fait. Moi, ça m'a redonné l'espoir en l'humanité.
Je comprends. C'est ce que... Et qui a eu idée de faire ce documentaire-là?
C'est un peu un concours de circonstances. Je me disais, après avoir entendu ce documentaire, je me disais, ben voyons donc, le Rwanda m'appelle depuis des décennies, c'est incroyable. Si je ne veux pas, je pense que je vais le regretter. Je commence à me parler comme ça, dans ce sens-là. Et puis, il y a un nommé Charles Domingue, un documentariste qui a fait plein de documents, de documentaires, c'est-à-dire sur toutes sortes de sujets. Il a même fait un documentaire sur la maladie de Lyme. Charles Domingue est son nom. Et il vient terminer un documentaire sur le Rwanda, Paradis retrouvé. Et il termine son documentaire chez moi, avec Marie-Josée Tchikali, qui, elle, est rwandaise d'origine, mais québécoise d'adoption. Et c'est une survivante, elle aussi, du génocide. Et ils sont venus terminer le documentaire ici, où moi, je lui chante « Quand on est en amour », et elle l'a traduit en sa langue maternelle. De là est venue l'idée, si on faisait une suite à ça, le Rwanda, mais l'après-génocide, après ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est un exemple à suivre. Et c'est un pays que j'ai découvert absolument magnifique, le pays des 1000 collines. Une colline après l'autre, c'est à peine plus grand que la Gaspésie. Et ce pays-là s'est relevé des horreurs les plus innommables qu'on puisse imaginer. Et les voilà qui célèbrent la vie à tous les jours, et c'est les sourires qu'on trouve partout. Et moi, le soir, c'est féerique. Les collines que tu vois, elles sont partout. Il y a de la lumière partout. C'est incroyable. On se pense à vol d'oiseaux, où qu'on aille.
Puis est-ce que la pauvreté est très, très présente encore, ou les gens ont...
Elle est présente, mais ils n'ont pas... la pauvreté, là-bas, c'est... Je crois qu'ils sont riches, de toute façon. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas besoin de tout... Ils n'ont rien à cirer de tous ces besoins que nous, les Occidentaux, on s'est créés. On n'arrive pas à être heureux, nous autres, malgré tout ce qu'on a. On est gâtés, on ne veut pas attendre après rien. Tasse-toi, puis c'est... J'ai vu une grande différence là-bas. Une grande différence.
Donc, ils ont une richesse culturelle, sont capables de s'amuser avec rien.
C'est des gens qui célèbrent la vie, ouais, avec le sourire, c'est la bienveillance, ils sont à l'écoute de l'autre. Ils ne s'exploitent pas. C'est quelque chose.
Ouais. Puis ils ont énormément de musique. C'est des gens qui adorent la musique, qui adorent danser.
C'est bon. Ils ont une façon d'aborder les choses, les rythmes. Et c'est inné, hein? Tu vois, les petits gamins comme ça qui dansent et qui chantent. Poursuis avec tes questions, je ne sais plus par où commencer.
Puis là, vous avez été au Rwanda pendant combien de jours?
Trois semaines. On a fait trois semaines. Une journée de congé, tu t'imagines?
Une journée
de congé. Mon oncle, 17 ans, là. Mais j'ai réalisé des rêves.
Comme quoi?
En 2003, moi, je suis membre de la fondation Diane Fossé. Diane Fossé, ils ont fait un film sur elle, ça s'appelle « Gorille dans la brume ». Elle a sauvé les gorilles de montagne au Rwanda parce qu'ils étaient en train de toutes les massacrer, les tuer pour empailler les têtes et faire des cendriers avec leurs mains. Tu t'imagines de quoi on est capable, nous, les... J'arrive pas à comprendre ces gestes-là, c'est inconcevable dans ma tête. Eh bien, elle s'est installée dans une cabine elle-même sur la montagne et elle a engagé un genre de milice, des anti-braconniers, finalement,
ouais,
et qui montaient la garde. Quand elle a entrepris cette œuvre, il en restait à peine 250. Alors, aujourd'hui, il y en a plus, je ne sais pas moi, comme 2000. C'est un endroit qui n'est pas tellement grand. Alors, c'est leur domaine à eux. Ils sont magnifiques. J'en ai même adopté un, comme je vous dis, en 2003. J'ai adopté Guiza, un gorille qui avait 15 ans. Et j'ai eu de ses nouvelles quand je suis autour. J'ai mentionné ça, évidemment, mais ils ont tous leur dossier. Les gorilles sont bien, bien protégés maintenant. Ils se sont aperçus que les gorilles vivants, c'était beaucoup plus... Ça rapportait beaucoup plus que de vendre leurs morceaux.
Ouais.
Ils sont protégés, c'est un trésor, avec raison. Et j'ai eu des nouvelles de Guiza, mon filleul, qui lui est mort de sa belle mort à 40 ans à peu près. Il a fait plein de bébés partout.
OK. Il y a eu une belle vie. Il y a eu une belle vie, puis vous l'avez adopté. Donc, j'imagine que...
Ouais, exactement, en 2003.
Ah, ouais.
Et puis, c'est certain que j'étais au Rwanda, il fallait que j'aille gravir la montagne. J'ai gravi la montagne avec nos guides et tout ça. J'ai été voir les gorilles, les voir eux-mêmes. Et quand on a mis nos masques, non pas pour se protéger d'eux, mais protéger les gorilles de nos maladies, on les protège finalement.
Ouais.
Et puis, quand je me suis tourné, j'en avais deux qui jouaient, qui se pétaient comme des gamins, 4 ans, puis un autre qui a cassé un bout de bambou, puis qui est arrivé juste la pointe à la caméra de Charles, puis il a mis sa main sur la caméra, Charles a juste dansé comme ça. Écoute, je capotais, plus je regardais, plus je voyais des bébés partout. Puis là, je voulais voir le dos argenté. Hein. Alors, finalement, on a fait quelques pas de plus, puis il était là, en train de manger, il mangeait. C'est comme si on n'était pas là. Ils sont habitués à notre présence. Mais à un moment donné, il s'est levé, il a regardé vers moi, directement vers moi. Il s'est levé, il a fait quelques pas, puis il a allongé la main, puis à mes pieds, il a pris une pousse de bambou. Et puis, il s'est tourné, puis il a continué son chemin. Il m'a frôlé avec sa fourrure. J'étais sous la fascination totale, mon chum. Je réalisais un rêve. Je rêvais de ça depuis tellement longtemps. Et ça s'est passé encore mieux que je pensais.
Est-ce que vous avez fait des entrevues là-bas?
J'ai fait plein d'entrevues. On a fait plein d'endroits aussi où il y a des gens qui s'occupent des gamins dans la rue. Ils ont des écoles pour aider les mères qui sont monoparentales. C'est un pays qui est en plein essor, mais c'est l'humain qui prend soin l'un de l'autre. C'est un de nos guides, c'est dans le documentaire d'ailleurs. Lui, il y a une partie de ses revenus qu'il fait comme guide au gorille. Il a une école de couture. Alors, les mères monoparentales peuvent aller là, suivre des cours de couture. Tout ça est gratuit. Et, attenant à ça, il a ouvert aussi une garderie pour prendre soin de leurs enfants pendant qu'elles étudient, qu'elles courent. Il fait ça comme ça, tout bonnement. C'est plein de gens partout qui font ça.
Ouais. Patrick Normand qui va là. Bon, Patrick Normand, c'est un homme blanc. Comment l'homme blanc est accueilli au Rwanda?
Umbozo, ils appellent comme ça, l'homme blanc. Mais on est très bien accueillis. Quand on est arrivé là-bas, on était brûlés, hein, pas ça. Ouais. 19 heures d'escale et de vol. Mais on n'est pas obligé de faire ça comme ça. On peut quand même faire ça en plusieurs jours. Moi, la prochaine fois que je vais là, c'est sûr que je vais casser ça un peu. S'acclimater aux 6 heures de décalage, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Rappelle-moi ta question.
L'homme blanc, est-ce qu'il est bien accueilli là-bas?
Oui, beaucoup. Ouais. Vraiment, vraiment, là. Quand on était marché, le premier, quand on venait d'arriver, je dis à Nathalie, je dis, on va aller prendre une marche, on va aller se promener. On arrive à une rue à Kigali, il y a plein de gens, et tout à coup, il y a un Rwandais qui vient vers nous avec le sourire, et il nous regarde tous les deux, il dit, que vous avez l'air amoureux, vous deux. Ah ben, c'est le premier qui nous parle. Le premier qui nous parle, le Rwandais, alors qu'on commence à parler avec lui, on demande son nom, je m'appelle David. Oui, il dit, avant j'étais guide, mais après la pandémie, je suis tombé malade. Et heureusement qu'on a droit à l'aide médicale ici. Il marche là pour aller chercher ses médicaments, tout ça. On l'a rencontré par hasard. Et puis on lui a demandé, est-ce qu'on peut vous filmer? On aimerait vous filmer. Vous êtes notre premier Rwandais à qui on s'adresse. Il dit certainement, tout ça. Puis je lui dis, à un moment donné dans la conversation, je lui demande, est-ce que vous connaissez la chanson « Quand on est en amour » Il dit, quand on est en amour, je crois que c'est une française. Hein. Je lui dis, non, c'est moi. Il recule d'un pas. Oh là là, c'est vous? Oui, oui. Et je commence à fredonner la chanson. Il commence à la chanter avec moi. Hey. Puis après, il dit, j'aimerais qu'on prenne une photo si vous voulez l'envoyer à ma fille. Elle ne croirait pas que je vous ai rencontré. Ouais.
Ben, je veux dire, comment? Les gens ont tendance à...
Le Rwanda, l'autre bout du monde.
Les gens ont tendance à penser que la langue française, c'est qu'en France et au Québec, mais à la grandeur de la planète, il y a de la francophonie. Là. Il y en a peut-être...
Mais par là-bas, j'ai appris aussi qu'il y a beaucoup d'autres pays voisins comme le Burundi,
Burundi, ouais.
où ça parle français, où on me connaît là aussi. J'ai pas fait tous ces pays là quand même, mais
Mais
c'est
c'est quand
quand
même
même
incroyable, Patrick
le
Normand, parce
pays, c'est
que...
le seul endroit.
Ouais.
Tous les pays attenant à ça, eux autres, ils sont mal organisés, ça va pas bien. Mais le Rwanda, là, c'est impeccable.
Mais il y a encore des
C'est
choses qui vous surprennent,
super.
Patrick Normand. T'sais, il y a encore des choses qui vous surprennent, comme arriver au Rwanda et rencontrer quelqu'un qui avait déjà entendu
Oui.
votre musique. Ça vous surprend encore, ça, aujourd'hui, même à plus de 70 ans?
Ça va toujours m'étonner.
Ah ouais.
Je vais toujours être fasciné devant tout ce retour que j'ai.
Avez-vous un sentiment d'imposteur, de pas avoir l'impression que vous méritez tout cet amour-là que vous avez?
J'ai tendance à le penser. Je m'assume, je me donne pas droit à beaucoup de mérite dans mes pensées intérieures. Mais c'est Thomas Emmanuel, un des plus grands guitaristes au monde. Si jamais tu connais pas Thomas Emmanuel, tu fais YouTube, tu mets Patrick Normand, Thomas Emmanuel, tu vas nous voir jouer ensemble, mais tu vas t'enfarger dans plus des milliers de vidéos de Thomas Emmanuel
Ouais.
qui joue le medley des Beatles. Ah, t'as jamais entendu la guitare acoustique jouer comme ça? Il y a plein de nouveaux maintenant des émules de Thomas Emmanuel qu'on voit un peu partout. Mais Thomas Emmanuel, c'est lui qui suit Chet Atkins de très près. Et puis c'est lui qui m'a dit à un moment donné, il dit merci de me montrer comment. Il dit tap tap. Parce que moi, je me suis, il dit, je ne suis jamais dans ta ligue. Impossible. Tu es partout dans le monde avec ta guitare. Tu es juste tes six cordes, ta guitare. Tu es tout seul pour te défendre sur une scène. Tu n'as pas de musicien. Tu es incroyable. Tu rends le monde tellement. Il dit, toi aussi, c'est ta façon très spéciale à toi de rendre les gens heureux. Ça, j'ai toujours retenu ça. Et puis, la dernière fois que je l'ai vu, c'était lors de. Il faisait en direct de l'univers des deux, les deux frères. Et puis Sonny, c'est un amateur de Thomas Emmanuel. Et puis il a composé une pièce instrumentale. Et puis ils ont invité Thomas Emmanuel à mon insu. Je ne savais même pas. J'ai quasiment fait une crise cardiaque quand je l'ai vu. Je me levais là-bas, il était à côté de moi. C'est quelque chose. Et puis on a joué la pièce de Sonny. Mais Sonny, il regardait son idole, là, puis Patrick Normand, tout ça. Puis, là, à un moment donné, tu le vois qui allume. Ils sont en train de jouer ma toune. Ah, tu devrais y voir la face. Tant mieux, Emmanuel, qui jouait cette pièce à lui.
Ouais. Puis,
Alors,
mais
je lui raconte, moi, quand j'étais, la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai entendu jouer dans sa loge, tout en train de jouer. Quand j'ai regardé à travers sa porte qui était entrouverte. Elle dit, viens-t'en, commune. Quand je suis rentré, il a fermé la porte. Et là, il dit, je vais te montrer quelque chose que je suis en train de travailler dessus. Puis, tout. Puis il commence à me jouer des affaires à moi. Puis là, je me mets à penser, je suis assis devant le plus grand guitariste du monde entier. Lui, il me fait rentrer dans sa loge, puis il me traite comme un égal. Il me joue ses affaires pour me montrer qu'il est content de me faire ça. Je me mets à pleurer comme un bébé. J'ai l'air d'un vrai fou devant lui. Mais j'ai lui, j'explique après, je les écoute. Je réalise ce qui est en train de se passer là.
Ouais.
C'est quelque chose, c'est.
Mais vous avez
Des
l'impression que vous méritez. Vous avez
grandes
les.
personnes de plus influentes de ma vie
Ouais.
étaient en train de faire de la musique pour moi. J'oublierai jamais ça. Parce que je commence à avoir des problèmes d'arthrite,
Ouais.
des problèmes de scie. Puis lui, il a 9 ans plus jeune que moi. Sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit en sortant? Il dit, Thanks for showing me hell.
Wow.
Merci de me montrer.
Mais vous avez l'impression que ce genre de commentaire-là n'est pas approprié pour vous, que vous ne le méritez pas, ce genre de
Ben non,
commentaire-là?
je veux dire que c'est du grand amour.
Ben oui, c'est
Je
du
suis
grand amour, mais il faut
partout.
l'accepter, ces commentaires-là, M. Normand.
Je gonfle, je pleure à journée longue d'amour, de bonheur, de reconnaissance. C'est des. Incroyable, je te raconte ça, les larmes aux yeux,
Ouais.
c'est incroyable, c'est des choses inespérées.
Ouais, parce que vous avez marqué.
Je me dis, j'ai dû faire quelque chose de correct quelque part pour que la vie me récompense à ce point-là.
Ben
Puis
oui.
j'essaie de mettre tout le monde au courant de ça parce que C'est possible, je vous le dis que c'est possible. J'ai 77 ans, jamais j'ai été aussi heureux que maintenant. C'est très possible.
Est-ce que vous vous
Pas arrêter de
imaginiez cette...
courir après, c'est lui qui nous cherche.
Exact. Est-ce que vous
Non.
imaginiez cette carrière-là? Parce que votre carrière a commencé en 1969. Je vais vous laisser vous essuyer les larmes,
Ben.
Monsieur Lormal. Votre carrière a débuté en 1969, puis vous avez marqué des générations et des générations. Puis il n'y a personne qui a oublié Patrick Normand. Là. Quiconque a déjà écouté la radio ou vous avoir vu en spectacle, on se
Les
souvient
souvenirs
Patrick Normand.
d'enfance aussi.
Ben oui, ben oui.
Les souvenirs d'enfance. Y a-t-il une plus belle façon d'influencer des enfants à ça, à ce message-là? De ne pas laisser la chance d'être aimé, de se faire endormir avec ces choses-là, de se faire endormir avec. D'être entouré de musique qui raconte des choses, des messages de vérité comme ça. Et c'est des choses qu'on n'oublie pas quand on est jeune. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens, j'entendais, je sais pas moi, Tino Rossi qui chantait, j'avais 20 ans, bien avant Fernand Gignac. J'étais gamin, j'étais conscient de la musique. Moi, j'avais 2 ans, 2 ans et demi. Je me demandais comment ça se fait qu'il y avait tant de monde, puis de la musique que j'entendais dans une petite boîte en bois, qui était sur une tablette, sur ma radio. J'étais un bambin. J'ai ces souvenirs-là encore dans ma tête. J'ai ces
Vous
images-là,
avez
je
eu
m'en
votre
souviens.
première guitare à quel âge? Vous avez eu votre première guitare à quel âge, M.
Euh,
Normand?
je sais pas, mais je sais que j'ai joué avec mon père là, à partir de, je sais pas moi, 5, 6 ans, 7 ans. Là. Je me mettais à côté de lui, puis je grattais la guitare, les cordes, puis lui, il faisait les accords, puis on chantait.
À 5 ans.
C'est comme ça. Je voulais jouer de la guitare. Mon père, c'était mon héros. J'aimais ça. Aussitôt qu'il sortait sa guitare, pour moi, c'était la fête. Là. Il pratiquait des fois les dimanches après-midi. J'allais le voir, je m'installais devant lui, je le regardais faire. Puis...
Votre père est un musicien?
Ben, il n'est pas un professionnel. Il connaissait 3, 4 accords. T'sais.
Ouais.
Mais il aimait ça. Il trouvait du bonheur là-dedans. Puis je voyais à quel point c'était rassembleur. À chaque fois qu'il sortait sa guitare, comment que les gens se mettaient autour de lui, puis qu'ils chantaient avec lui, puis qu'ils faisaient des chansons à répondre, puis la guitare, quand ça sortait, là, c'était la fête, puis c'était la communion. Tout le monde était ensemble, on vibrait tous au même. C'est mes plus beaux souvenirs. Je peux pas en trouver des meilleurs que ça. Alors, j'ai voulu continuer dans ça. J'avais mes jobs de jour, comme tout le monde. Le sort en a fait que j'ai lâché ma job de jour à un moment donné. Je ne pouvais pas continuer à faire de la musique 6 soirs par semaine, puis travailler 5 soirs par semaine. Il me restait juste le samedi matin pour dormir, le dimanche, puis le lundi pour sortir. Tout était fermé quand même.
Mais
Mais
Patrick Normand a commencé à penser quand qu'il pourrait faire une carrière en musique. À quel
jamais j'ai
âge?
pensé à rien
Jamais.
de ça. J'étais juste content, j'étais juste heureux.
Ouais.
Je planifiais rien là-dedans. Je sais pas, j'étais nono là-dedans. J'avais trouvé le bonheur, j'arrêtais de le chercher. Il
Ça a
y avait
commencé, ça a
un tel
commencé.
feeling que j'avais à m'amuser avec les chambres, à faire de la musique.
Ouais.
Pogner des filles, écoute, ça aide une guitare, je te jure.
Ça a commencé quand, pour Patrick Normand, quand il a cru qu'effectivement il pourrait y avoir une carrière? Comment ça a commencé? Qui vous a approché pour vous dire, Monsieur Normand, ce serait le temps de...
C'est venu des autres.
OK.
C'est venu des autres qui m'ont un peu comme, ah ouais, vas-y, 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 vas-y. Je n'avais pas vraiment ce désir-là. Premièrement, je me trouvais pas assez bon. Je me sentais le syndrome d'imposteur dont tu parlais tantôt.
Exact.
C'est au début de ma carrière que je l'ai senti, moi. Tellement évident dans mon body language que j'en suis devenu la référence quétaine. C'était Patrick Normand dans le temps, dans les années 70, là, début 80, là. Puis quand j'ai commencé à faire des hits, ah ben là, on me prenait pas au sérieux avant, mais là, je commence à faire des hits. Là, ça dérangeait pas mal. Alors, j'ai subi. J'avais l'impression de ne pas être à ma place. Et effectivement, on m'a laissé savoir. Très souvent, on m'a laissé savoir. J'ai continué pareil parce
Ouais.
que J'étais heureux quand je suis heureux quand je fais ça.
C'est ce que vous vouliez faire de votre vie. Vous avez choisi votre nom d'artiste comment?
J'ai presque lâché au début des années 80. J'ai presque lâché.
Ah ouais.
Il y a un ami qui travaillait pour une compagnie de verre, de thermos, là, des fenêtres. Il dit, viens-t'en avec moi, tu vois, c'est payant, on va faire de quoi avec ça. Là. Mais là, tu veux moi, vendre des... Ah si. Non.
Non. Vous avez choisi
Ça n'a
votre nom
pas été
d'artiste
long, j'ai
comment?
dit, ben voyons donc, j'ai aimé mieux crever de faim. J'ai crevé de faim au début des années 80. Mes parents, j'avais 35 ans, mes
Ouais.
parents sont venus me porter à manger dans mon frigidaire. Mes deux filles vivaient avec moi à l'école, j'étais dans le coin d'Iberville. Ça n'allait pas très bien, mais par ma faute et ma très grande faute, c'est moi qui m'auto-flagellais.
Vous avez choisi votre nom d'artiste comment?
On est souvent notre propre bourreau, souvent.
Ouais. Vous avez choisi votre nom d'artiste comment, Monsieur Normand?
Ah, ça, c'est pas un mystère, ce jeu.
Non?
C'est qu'on cherchait. Écoute, mon nom, c'est Yvon Étier. Alors, mesdames et messieurs, on l'applaudit, Yvon Étier. Ça marche pas. C'est pas vendeur, tu
Non.
comprends? J'étais d'accord avec ça aussi. C'était la période des prénoms. Je sais pas si tu te souviens d'une chanson qui s'appelait Aline. Et j'ai crié, crié,
Aline,
Aline,
pour
pour
qu'elle
qu'elle revienne.
revienne.
Tu te souviens de ça, hein?
Ouais.
Non, mais le chanteur s'appelait Christophe. Après ça, ben, il y a eu une chanteuse qui s'appelait Jennifer. Une autre qui s'appelait, je sais pas, c'était la période des prénoms. Alors, on s'est fait une liste de prénoms. Jacques, André, Paul, Patrick, Normand, Claude, Albert. Hein? On est revenu en arrière. Patrick, Normand. Hey, ça sonne bien, ça. Hein, Patrick, Normand. Sure. Puis moi, je chantais beaucoup en anglais. Je faisais beaucoup de covers.
Oui.
J'en enlève le D. Patrick Norman. Parfait, on prend ça. Et c'est là que j'ai vu le jour. Il y
C'est
a
que.
55 ans. J'ai l'air un peu plus vieux, tu souffres pas.
Non, 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 vous ne faites pas votre âge, là. Bien honnêtement, j'ai été surpris quand j'ai été voir votre biographie parce que votre carrière a commencé vers la fin des années 60, plus précisément en 1969. Et ce qui m'a frappé, et c'est un élément que je n'avais pas, c'est que vous avez fait des chansons thèmes du film qui s'appelait le film Papillon. Dustin Hoffman a joué dans ce film-là. Steve McQueen, qui était une méga star internationale, jouait dans ce...
Ben oui, théâtre en maudit, ça c'est en 74, je m'abuse, quelque chose comme ça.
J'ai 72 ici.
72, tu
Ouais,
vois.
ça serait tout ça? À
En 72,
74.
mon cœur est à toi. En
74.
72, mon cœur est à toi. 74, c'est ça. Ouais, Steve McQueen, ça fait longtemps, là.
Ouais, ça fait très longtemps. Mais vous avez fait la chanson thème de ça et vous en approchez comment?
J'étais avec la compagnie RCA dans ces années-là.
Ouais.
Et puis, Elvis Presley, entre autres. RCA. Et puis, c'est eux qui ont tenu les droits mondiaux pour la chanson et ils m'ont choisi pour interpréter. La chanson fait le tour du monde. Moi, j'ai fait le tour de la province.
Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà demandé d'aller jouer à l'international?
J'ai jamais visé ça. C'est bizarre, hein? J'avais pas ce désir. Il y a eu quelques tentatives. J'ai quelques albums en anglais aussi. Là, si tu entends du bruit, là, c'est parce que j'ai les paysagistes qui sont ici avec leurs outils, ça fait du bruit un peu. Je ne sais pas si tu entends, là, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais, non?
L'international.
Oui, à l'international, c'est ça. J'ai quelques albums. J'ai un album qui s'appelle Whispering Shadow. Ça a été un très bel album avec les musiciens qui travaillent avec Dr. John, Robert Palmer. Une partie de l'album a été enregistrée en Louisiane. J'ai aussi Passion Voodoo, enregistré en Louisiane avec les musiciens de Dr. John. Ça, c'est bon. Ouais. Puis la seule chanson de Patrick Normand qui a tourné à C'est quoi? Cette fille est un peu folle. Seulement si tu peux retrouver ça, c'est bon. C'est Daryl. C'est, voyons, pas Daryl Johnson, il est à la base. C'est Willie Green, the third, qui est au drame. Oh, un monstre. Faut aller écouter ça. Sept filles, un peu folles. Tu checkeras ça.
Je vais aller voir ça. Donc, est-ce que c'était
Ouais.
compliqué dans le temps passé dans les radios du Québec? Est-ce que vous deviez faire la tournée de
Je devais
chacune?
surmonter le côté qu'on ne prenait pas au sérieux au début de ma carrière, c'est certain.
Ouais.
Puis moi, mais ça ne m'assurait pas, puis ça amplifiait un peu mon syndrome d'imposteur, tu comprends? Mais à un moment donné, il a fallu que je me dise, écoute, ben, il est temps de passer à autre chose. C'est là que j'ai fait l'album Passion Vaudou. J'ai dit, moi, je veux m'amuser, je veux faire ce que je veux. Je veux pas faire ce que les autres veulent que je fasse. Je ressors ma guitare, puis je me trippe. Je veux tripper. Je veux tripper dans la musique. C'est ça qui m'a emmené dans la musique, et c'est ça que je veux faire. Je veux pas plaire à tout le monde. Désolé. C'est là que ça a commencé. Bon, ma transformation est arrivée. Et puis, j'ai pas arrêté de m'amuser depuis. C'est bizarre. C'est ça que le monde aime, que je
Parce que
m'amuse.
au départ, vous vouliez plaire à tout le monde, puis à un moment donné, vous vous êtes dit,
Ben
dans
ouais,
vie, on
tu
peut
le
pas plaire à tout le monde.
dis. Hey, j'ai même lâché la guitare. Ils m'ont même convaincu de lâcher la guitare d'être un chanteur de charme. Ben ouais. La perruque, toutes les grosses lunettes. Moi, un peu bedonneux. Ils voulaient faire un chanteur de charme avec moi.
Ils vous ont mis une perruque sur la
Pas.
tête?
Faisais, mais j'y croyais pas. Je me sentais pas bien là-dedans.
Ils vous ont
Tu
mis une
t'imagines?
perruque? Ils vous ont mis une perruque sur la tête?
Ben ouais, à un moment donné, à 23 ans, j'ai perdu mes cheveux, mais je frisais.
OK.
Fait qu'on m'a convaincu de porter un toupet. Jamais je vais conseiller à quelqu'un d'embarquer dans cette folie-là. Assume-toi, garçon. C'est le plus beau quand t'es au naturel. Arrête d'être artificiel, toutes ces choses. Pas de temps à mettre là-dessus. Le bonheur, c'est pas là.
Donc vous
Mais il y
avez
en a qui ont besoin de ça, que tu veux. Il y en a qui ont le droit de vouloir travailler sur leur. Mais moi, je trouve que je suis pas pire.
Ouais, vous étiez beau garçon, même pas de cheveux.
Ben, quand, mais, hein? Achète-toi une guitare, je te
Ouais,
dis.
mais parce que je me souviens de vous avec des cheveux, mais moi je c'est peut-être que je tombe des nues, mais je savais pas que vous aviez une perruque à cette époque-là.
Oh oui. Quand on est en amour, oui, à 23 ans.
Puis vous avez décidé d'enlever cette perruque-là à quel âge?
En 2000, avec les fabuleux Éliens. Tu sais, quand j'ai dit je retourne, je veux m'amuser, là.
Ouais.
On s'est réunis, il y avait Jeff Smallwood au guitare, puis moi. On avait un Wallon qui s'appelait William Dunker, nous a quittés malheureusement. Et Bourbon Gauthier, ses drums.
Ouais.
Quatre chanteurs, quatre gars de band, hey, deux guitares, bass, drums. Les Beatles! On a parti sur ce trip-là. On est rentré premièrement, c'est un accident. C'est Pierre Tremblay, le producteur des disques doubles dont Bourbon Gauthier faisait partie de la maison. Il était au Midem et il a ramené une chanson qui s'appelle Jean Pinson. C'est tout de suite après. Le verglas, la tempête du verglas, c'est en
Ouais.
98 ou quelque chose de même. Donc, il arrive avec cette chanson-là, puis c'est une chanson en wallon. C'est comme du Cajun, mais français. Tu comprends, mais c'est d'autres mots, mais tu comprends ce que ça veut dire. C'est bizarre à dire, là. Les arbres sont tous nus. Les arbres sont, il n'y a plus de feuilles.
Sont
Les
tous
arbres sont tous nus. Bientôt viendra l'hiver. Je me sens ben remoulu, tout seul, sur une civière, sur ma chaise. D'accord? Tu venais, tu comprends. Puis il arrive avec cette belle chanson-là. Jean Pinson. On pense à nous autres, on nous a réunis. On fait ça. On harmonise. On fait toute la job. Puis on se regarde la gang, puis on se dit, tabarnouche. On s'aime bien, nous autres. C'est le fun, ça, faire ça de même. On se fait un album. On décide, là, sur le champ, qu'on se fait un album. On emmène chacun trois chansons, dont celle-là. Et puis, on a bâti l'album, pif, paf, pouf. Ça a sorti. La critique a été extraordinaire. Un album inespéré. Ça s'appelle Les Fabuleux Éliens. Si tu n'as pas entendu ça, va chercher ça. Ça commence avec tu pousses petit, mais tu poulets bouché. Très, très New Orleans. C'est ça, moi.
Ouais.
Je suis un gars de band. C'est là que ça a repris. C'est là que le... j'ai mis le bandeau.
Mais ça, je m'en rappelle. Je me rappelle de vous
J'en ai
avoir
parlé
avec le
aux
bandeau.
boys. À la deux, on avait une entr'acte quand on a lancé l'album au
Ouais.
Spectrum. Puis là, j'ai parlé aux boys. J'ai dit, les gars, si j'enlève ma perruque, puis je me mets un bandeau, mettez-vous un bandeau, vous autres aussi. Les boys ont dit, certains, fait qu'ils sont tous revenus avec le bandeau sur la tête, solidaires avec moi. C'est là que j'ai dit, bye, j'ai fait un frisbee avec. Me voilà libre. Et Sylvain Cormier a fait un article sur nous et il a dit, le titre, c'était Le foulard de la liberté. C'était quelque chose.
Est-ce que votre père a vu une partie de votre carrière? Est-ce qu'il a eu le temps de
Oui,
voir
mon
ça?
père, oui. Ah oh, oui. Mon père, là, il me l'a dit, il dit, je suis fier de toi, mon gars.
Ah, c'est tellement
Fier.
important.
Les gens aiment, tu rends les gens heureux. Un peu comme Tom Emmanuel m'a dit, tu comprends?
Ouais. Mais
Tu rends
ça,
les gens heureux.
parce que
Et...
la génération de votre père, c'était pas des gens qui étaient
Oh
très
non,
qui
non, non.
livraient leurs sentiments. Puis là, de voir que votre père vous a dit, tu me rends heureux, mon fils.
Oh, moi, je suis venu. Écoute, je suis un broyeur professionnel. Qu'est-ce que tu
Ouais.
penses qui est arrivé?
Vous avez
J'ai
broyé.
dit, pas eu, mon maudit. On s'est fait un gros câlin. Mon père qui me dit ça. Dites-le à vos fils, c'est important.
Ouais.
C'est pas
Genre.
juste les blancs. Mais
Ouais.
checker ce qu'ils font bien aussi. Mais on appelle ça storm-là aussi, quand ils font pas bien. Hein. Faut veiller au grain.
Exact. Votre mère, est-ce qu'elle était inquiète parce que vous faisiez ce métier-là?
Oui et non. Elle savait que j'étais un bon garçon, premièrement. Et aussi, je ne pouvais pas faire le fou. Hein. Je travaillais 5 soirs par semaine chez Claude Saint, un restaurant de la Rive-Sud. Puis moi, je restais à Pierrefonds. Le voyagement, là, Pont-Champlain, je l'ai fait en Simonac. Là.
Ouais.
Puis après, je sais pas, j'ai continué à travailler très, très longtemps, jusqu'en 67. J'ai tenu le coup. J'avais pas de dette. Au moins, il y avait ça. Mais à un moment donné, il fallait que je fasse un choix. Puis ça n'a pas été long. Hein. Je l'ai fait, mon choix. J'ai pris la musique. OK, là, j'ai ma job de jour. J'ai travaillé dans toutes sortes d'affaires. Ma dernière job que j'ai tenue assez longtemps, c'était dans une imprimerie. Ça n'a rien à voir avec le métier. Je travaillais dans d'autres affaires. Plein de choses. J'ai même préparé le Beauvril en sachet. Je travaillais pour Beauvril. Vous avez bu une petite tasse de Beauvril. C'est peut-être moi qui avais préparé ça.
Mais est-ce que vous avez eu, bon, vous avez rencontré, j'imagine, diverses femmes dans votre vie? Est-ce que vous avez eu un mariage? Est-ce que vous êtes
J'en ai
marié?
marié trois.
Vous en avez marié trois?
Ouais, pas en
Qu'est-ce que
même
vous avez
temps.
pas compris la deuxième fois?
Je vais te dire,
Ouais.
pour répondre, j'ai compris à la troisième ce que je n'avais pas compris avant.
T'es quoi?
L'amour inconditionnel, l'amour libre, l'amour libre d'aimer sans culpabiliser, sans culpabilité. Il n'y a rien de plus beau parce que je n'étais pas avec les bonnes personnes avant. Alors j'avais tendance à ne pas être fidèle. C'est pas drôle pour la conjointe non plus, tu
Non,
comprends?
pas du tout.
Alors ça aussi, ça m'aidait pas dans mon estime.
Ouais.
Je me flagellais beaucoup.
Est-ce que vous avez eu des enfants au travers?
Ouais, j'ai de magnifiques filles.
Ouais.
J'ai 6 magnifiques petits-enfants et j'ai 2 magnifiques arrière-petits-enfants.
Ça, c'est une belle fierté, là.
C'est bon, très.
Parce que vous avez eu une belle
Mes petits.
carrière.
Hein?
Vous avez eu une belle carrière, puis en plus, vous avez fondé une famille, puis il y a des descendants de ça.
Ouais, oui, exactement. Puis mes petits-fils, les fils de ma fille, Debbie, ma plus jeune. Ah, ben, Colin, je pense qu'ils ont hérité quelque chose du bonhomme.
Ah ouais?
Ah, parce que Alexis, qui vient d'avoir 18 ans, il est en musique et en art nature. En nature. Et il joue du trombone, il joue de la flûte traversière, il est bon, il joue du piano, il entend quelque chose une fois, pif, paf, il joue. Et bon. Puis le plus jeune, lui, il a 10 ans, il a son propre canal YouTube, ça s'appelle, comment ça s'appelle? Z, quelque chose, Z. Il fait ses scénarios, il joue les rôles, il se fait des montages. Il m'épate, lui, ça se
Vous
peut
avez
pas.
des petits artistes.
Les laisse aller, ils ont une passion.
Ouais.
C'est ça qu'ils ont besoin, les jeunes, aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une passion quelque
Ouais.
part.
Est-ce
Parce que là, petit à petit, avec les années, les générations, les développements technologiques, on nous a volé nos désirs d'avoir quelque chose. Moi, quand j'ai eu ma guitare, là, ma première guitare, j'ai ramassé mon argent pendant 2 ans parce que je voulais avoir ma guitare. Quand je l'ai eue, ah, c'était un grand jour. Tiens, c'est la même chose quand j'ai fini de payer ma maison après 17 ans au lieu de 25, parce que j'ai payé dans les gros intérêts. Puis j'ai gardé le même paiement pareil, même si les intérêts ils ont baissé. J'ai dit non, je vais persister, j'ai gardé ça de même. Je l'ai payé en 17 au lieu de 25. Je sautais dans le parking de la banque, mon chum, pendant ces chars. Ça, c'est de la gratification, tu comprends, tu es content.
Ouais.
On n'a plus pas maintenant, tu payes 5 pitons, c'est fait.
Exact.
T'as plus le temps de désirer rien.
Les petits-enfants, ils jouent-tu une fois de temps en temps avec le grand-père? Est-ce que vous leur laissez la chance de jouer de la guitare avec vous? Est-ce qu'ils chantent avec
Écoute,
vous?
j'ai même fait une track avec Alexis,
Ah.
mon plus vieux, là, celui qui joue du trombone.
Ouais.
J'ai sorti une vieille pièce des années 50, 60, ça s'appelle K-Winding, ça s'appelle Coming Home Baby. C'est un trombonotiste, trombone. Trombonotiste, je ne sais pas, c'est même ça. Tromboniste en espagnol, en tout cas. Et puis, c'était une bonne pièce. C'était un surf music, un peu, tu sais. Puis, je vois ça, j'ai ça ici. Il va revenir parce qu'on va corriger, on va monter ça encore. C'est le fun, on a entrepris un petit projet comme ça. Lui avec son grand-père, moi avec mon petit-fils. Qu'est-ce que tu veux que je te
Ben
dise?
ouais,
Je suis heureux.
ça c'est
Ça
la
arrête.
vraie vie.
Ça arrête pas.
Ouais. Est-ce qu'il reste des rêves à Patrick Normand à accomplir? Est-ce que vous avez encore des rêves ou à cette heure, vous profitez du temps qui vous reste, vous prenez le
Je
temps de
profite de
vivre?
le temps, du temps qui reste, mais là, je suis en train de réparer un peu la carrosserie.
Ah oui?
Ouais, j'ai des problèmes d'arthrite, d'arthrose. J'ai une déchirure au niveau de l'épaule droite qui m'empêche de jouer. Ça me fait mal. C'est comme du feu dans l'épaule. C'est des blessures, tu sais, des blessures qui viennent du fait de toujours jouer mal placé, l'épaule par-dessus la guitare, la
Ouais.
caisse. J'étais pas au courant que je pouvais faire des exercices pour contrebalancer tout ça, tu sais, me garder à la bonne place. Alors, je vais me faire opérer le 3 juin prochain, je vais faire reconnecter le tendon.
Ouais.
Et puis, c'est ça, j'ai eu des problèmes de cœur, j'ai eu un problème de pouce à ma main gauche. On a mis un implant à ma main gauche, à mon pouce, parce que pour jouer de la guitare, j'ai besoin de mon pouce, ça, c'est mon levier.
Exact.
Des choses comme ça, tu sais, les chocs, tu sais, changement d'huile.
On comprend tout ça. Est-ce qu'il vous reste des rêves à atteindre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste un objectif à atteindre?
Non. J'ai l'impression de tout avoir eu. Puis j'ai l'impression que ça finit jamais, que je suis toujours en train de rêver mon présent. Je le vis complètement, tu comprends? Alors je demande juste la santé, je veux continuer le plus longtemps possible, que si tu veux, je veux pas m'arrêter tout de suite. Impossible! Mais j'endurerai pas longtemps.
Non.
Je prévois mes affaires, là. Je prévois mon départ. Ouais.
Ah ouais, on est rendu là.
Ah, encore là, mais écoute, 77. Faut pas arriver en couleur. Je vais avoir 78 bientôt. Là. Dans à peine 2 ans et demi, là, je ferai 80. On va faire un événement avec ça.
Ben, je comprends.
Ouais, on va faire la part de m'inviter, ma mère, mon père.
C'en
Vais
est un
peut-être
ob...
être avec eux autres.
C'en est un objectif,
On
ça.
prend ça au jour le jour.
Ouais.
Un jour à la fois, comme dit la chanson. Et puis, on repère tous les petits bonheurs que la vie nous amène à tous les jours, qui nous rappellent qu'on est bien, puis qu'on est chanceux de ne pas être en Ukraine, puis de ne pas être. Il n'y a pas des places qu'on.
Je comprends très bien.
C'est dommage, on va finir par comprendre, je l'espère. Sinon, ben, ça va se passer de l'autre côté.
J'avais quelques petites questions.
On va avoir compris.
Ouais. J'avais quelques petites questions en terminant, Monsieur Normand. Je rappelle aux auditeurs que je suis en compagnie de Patrick Normand, plus de 50 ans de carrière, puis on lui parlait en 50 début
d'année.
Comment?
55 ans cette année.
55 ans, wow! Vous pouvez en être fiers. Et est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont aidé au courant de votre carrière, que vous vous disiez, tabarouette, jamais j'aurais cru que cet individu-là pourrait m'aider? Il a été un moment marquant dans ma vie, dans ma carrière.
Ah, j'en ai beaucoup. Premièrement, mon père.
Ouais.
Qui, lui, vers l'âge de 8-9 ans, il a mis sa guitare, l'a mis sur mes genoux, puis il m'a placé les doigts au bon place, puis j'ai joué, je suis sûr que j'ai pas bien joué l'accord, mais dans ma tête à moi, le premier accord que j'ai joué, c'était beau. Le déclic, clair, s'est fait là. Je me souviens, c'est comme un flash. Ensuite, ben, il y a eu un jazzman dont le nom m'échappe, mais qui travaillait à la même place que je travaillais avec mon band dans les années 60, qui lui aussi, dans sa loge, s'est mis à me jouer toutes sortes de choses. Puis je me souviens qu'il grognait en même temps. Je voulais... Ça devait être un Christy bon guitariste, mais je n'étais pas assez allumé pour savoir qui c'était. Ensuite, ben, c'était mes premiers 45 tours. Mais les gens qui m'ont impressionné, au tout début, c'est Fernand Gignac qui m'a entendu chanter, puis il pensait que j'étais noir parce que je faisais beaucoup de covers dans ces années-là. Puis il a dit à Claude Saint-Jean, où je travaillais, ce fameux restaurant où j'ai passé 10 ans de ma vie, il dit, ce serait bon que tu t'occupes de lui. Alors, gérant, par la bande, Claude Saint-Jean, par la bande, est devenu mon gérant. Il m'a payé quelques des cours de chant, des choses comme ça, pour placer ma voix, parce que je chantais un peu n'importe quoi, moi, avant. Et puis... Claude Saint-Jean, c'est une des figures marquantes qui m'ont impressionné. Mais si on parle dans les gens connus, là, Gilbert Bécaud, c'est le premier avec qui j'ai fait une tournée. Je faisais partie des chœurs. On est même sur une pochette d'album où on est déguisé comme des anges. On avait tous des perruques frisées, blonds, puis on faisait comme des anges. On est tous avec des grands robes. On est debout sur des gens de pas des podiums, mais des steps, mais ronds, tu sais. On était grandis là-dessus, puis avec des grandes robes qui allaient jusqu'au plancher, où on avait l'air surréel, puis lui, Beko, il s'adresse à moi sur la photo. Lui, ça a changé ma vie aussi. C'est un grand artiste. Après ça, Chet Atkins, écoute, à 12 ans, j'ai découvert ce grand guitariste qui a changé la face de la ville de Nashville. C'est devenu la mecque de la musique à Nashville à cause de lui. C'est lui qui a un peu urbanisé le country. Il a amené le country de la campagne à la ville avec des arrangements de cordes, de violon, tout ça. Les plus beaux albums que je connaisse ont été produits par Chet Atkins. Et le guitariste qui a changé ma vie, c'est Chet Atkins. J'avais 10-12 ans peut-être. Incroyable. Ensuite, il y a eu d'autres. Tommy Emmanuel, Garth Brooks, que j'ai rencontré, qui m'a dit, m'a même offert son système, les systèmes sans fil avec le micro ici là, pour pouvoir chanter puis se promener.
Vous avez rencontré Garth Brooks?
Oh, oui, absolument. Puis il m'a offert son système. Il dit, je fais 50 000 fois plus d'argent que j'ai besoin. Il dit, là, j'arrête parce que ma femme est enceinte. J'ai parlé de son système. Il dit, si tu l'uses, mon système, je te l'envoie. Il dit, ah, moi, j'ai pris ça, ben ouais. Puis là, j'ai parlé à un de sa gang. Il dit, you know that he meant it, hein? Tu sais qu'il était sérieux, hein? Si tu voulais utiliser son système, il était sérieux. T'es un gars comme ça, là.
Wow.
Whatever, tu comprends? C'est tout du monde qui m'ont fait aimer le showbiz, puis les plus connus, les plus respectés sont ceux qui étaient le plus gentils avec moi. Ceux qui m'ont embrassé, qui m'ont... Là, je me sentais pas imposteur avec ces gens-là.
Ouais, mais vous êtes un peu à leur image, Patrick Normand. Ça a été
Merci.
Un plaisir de vous jaser dans les dernières 50 minutes. On rappelle que c'est demain sur le canal Historia que votre documentaire sera rendu public, c'est ça?
Oui, demain à 19h sur Historia.
Donc.
Ce beau documentaire. Tenez la boîte de Kleenex un peu à côté, mais pas parce que vous êtes horrifié, parce que vous avez touché. C'est un documentaire qui est rempli d'émotions. J'ai rencontré du monde là-bas, extraordinaire, qui sont confiés à moi. Et c'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie.
Patrick Normand, en espérant vous avoir encore très, très, très longtemps avec nous, vous êtes un artiste incroyable, puis j'ai adoré le moment que j'ai passé avec vous.
Moi aussi.
Merci beaucoup. L'excellent Patrick Normand, plus de 55 ans de carrière, était avec nous dans la dernière heure et le podcast sera disponible dans les prochaines minutes. On mettra ça sur le site de Boulevard, donc blvd.fm. Dans quelques minutes, on se rejoint au Capital, les amis, où j'aurai le plaisir d'être sur la terrasse pendant le match des Capitales. Donc, si vous nous entendez et vous vous dirigez vers le stade municipal, ben, venez faire un tour, ça va nous faire un plaisir de vous serrer la pince. Ce soir, ciel dégagé. C'est ce qu'on nous mentionne du côté d'Environnement Canada. Un genre de minimum de 8 annoncé. Pour ce qui est de demain, samedi, ce sera une belle journée ensoleillée avec un maximum de 23. Un minimum de 12 en soirée avec un ciel nuageux. Le retour du soleil dimanche, donc une alternance de soleil-nuage maximum de 21. Et lundi, à plus long terme, ben là, ce sera nuageux avec 60% de probabilité d'averse maximum de 19. Les émissions du week-end seront là, bien entendu. Puis je vous rappelle la belle promo qu'on a à la station. Merci beaucoup à la gang de Papa Roach de nous permettre d'embarquer dans cette belle aventure-là. Le 3 juin, concert privé avec le chanteur de Papa Roach qui sera dans nos studios ici même, dans le secteur de Le Bourgneuf, donc à la salle Le Bourgneuf. C'est le 3 juin prochain. Et dans chaque émission, on a une paire de billets à faire retirer et ce sera le cas ce week-end aussi. Sinon, ben moi, j'en aurai pour vous la semaine prochaine, lundi, pour ce qui est de Marceau le midi. Donc, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Soyez très attentifs, justement.